Il est 19h sur le 101.5 de Radio G et l'heure que vous voulez si vous écoutez ce podcast sur le www.radio-g.fr. Dans quelques instants, la case de Seb. Mais tout de suite, Gina.
Sauvez-vous tous !
Nouvelle urgente, Batman au micro. Avis à tous nos amis, message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman, et venons-en au fait.
Nous pouvons modeler votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
Tout ce que vous allez voir et entendre sur le 101.5 de Radio G. Il est 19h et vous êtes bien dans la case de Seb. L'émission qui parle truchement des ondes radiophoniques va propulser directement dans votre cerveau les plus belles images issues de la BD franco-belge, du manga et du comics. Seb au micro, mais je ne suis pas tout seul puisque ce soir je suis accompagné de Luc. Bonsoir Luc.
Salut Seb, comment ça va?
Bah ça va bien et toi?
En pleine forme, c'est l'hiver, on approche de Noël, donc bientôt des cadeaux.
Ah ouais, trop bien. Alors, j'en profite très rapidement. Il y aura pas d'émission entre celle-là et celle du 8 janvier, puisque bon, on va se reposer un petit peu. Le planning faisant que la prochaine émission des Voix du Scénarium, c'était le 1er janvier, et je ne sais pas dans quel état je serai le 1er janvier, je préfère pas la faire.
Écoute, c'est raisonnable, c'est tout à fait raisonnable et c'est tout à ton honneur de respecter les auditeurs.
Ah bah oui, attends, on n'est pas là pour faire n'importe quoi. Hein. Déjà que je vous impose ma voix et mes chroniques un peu tout le temps, donc voilà.
Non, ne te fais pas de mal.
C'est trop tard. Ce soir, de quoi parlons-nous? Ce soir, je vais vous parler probablement de cow-boy, probablement de pharmacien. Ça fait plusieurs fois que je vous parle de pharmacien. Je vous parlerai probablement de nuages. Et puis, on parlera de chat, je pense, aussi.
On va parler de chat, oui. On va parler de chat, tout à fait.
Bon, bah écoute, fabuleux. Par quoi on commence? On lui a pas laissé l'honneur la dernière fois, mais je pense que ce serait bien qu'on commence par la chronique de Fabien. Puisqu'on en a enregistré une. Je ne sais pas s'il nous écoute ce soir, mais il n'est pas présent avec nous. Mais en tout cas, il nous a fait une petite chronique sympa sur un manga qui s'appelle Say Hello to Blackjack, un manga médical. On se retrouve tout de suite après. Et c'est quand tu veux.
Alors, pour aujourd'hui, je vais vous partir sur un autre univers cette fois. On va être plutôt sur encore tranche de vie, mais drame plutôt cette fois par rapport à la dernière fois. Je vais vous parler de Say Hello to Blackjack ou Give My Regards to Blackjack. Alors pourquoi deux titres? En fait, tout simplement parce qu'il y a deux éditions. Il y a eu une première édition de chez Glénat qui était en 13 tomes, qui est parue en 2004. Et donc celle-ci, c'était Say Hello to Blackjack. Et une nouvelle édition qui date de 2021, donc plus récente, chez Naban.
Ok.
Et qui, elle, s'appelle Give My Regards to Blackjack.
Bon, pour éviter que la confusion entre les deux éditions, quoi.
Ouais, non, c'est qu'en fait, je crois, de mémoire, si je dis pas de bêtises, ça allait avec, en fait. Il y avait un peu les deux dans la première édition, et je pense qu'ils ont décidé de garder le deuxième un peu sous-titre qu'il y avait. Et après, vous allez voir que le titre a une référence à un manga très connu.
Oui.
Puisque, en fait, on est sur un manga sur la médecine. Et donc, du coup, Blackjack, pour la référence au personnage de Tezuka, Blackjack. Le médecin. Et donc là, c'est écrit par Shuo Sato. Et du coup, comme je disais, donc 13 tomes dans la première édition et 6 tomes chez Naban dans la nouvelle édition en plus grand format. Et ça date de 2002 au Japon. Donc ça commence un petit peu à dater.
Ça commence en bas dater.
Ouais, tout à fait. Et là, on est donc du coup sur un seinen. Donc, de quoi ça parle? En fait, c'est quoi être médecin? Voici la question à laquelle va devoir répondre Eijiro Sato, jeune interne de l'hôpital universitaire Eiroku. Bien décidé à se vouer corps et âme à sa profession, il va devoir faire face à la réalité des différents services qu'il va fréquenter et au paradoxe d'un monde médical japonais qui montre souvent ses limites dans un pays pourtant extrêmement prospère. Donc en fait, là c'est le petit résumé classique qu'on a de l'éditeur. Et ben en fait, on va suivre en fait une critique clairement de la médecine, du monde médical au Japon par l'auteur. Ça a fait beaucoup de bruit quand c'est sorti là-bas, parce que ben en fait, ça reflétait vraiment beaucoup de choses réelles. Et sincèrement, quelle lecture. Ça a été une vraie claque cette série. On est plongé au cœur du système médical en suivant ce jeune interne très dévoué, mais aussi très naïf. Parce que lui, il a la vocation de médecin en tête, il a envie vraiment
de sauver des gens.
Il connaît pas encore vraiment finalement le milieu de la médecine tel qu'il va affronter en fait à ce moment-là. Et du coup, en le suivant, on va le suivre différents services. Donc dans la première édition, en gros, un tome équivalait à un service différent. On suivait comme ça au fur et à mesure, et toujours, on va avoir des histoires assez difficile quand même, parce qu'on est quand même dans le milieu médical et on n'est pas dans le côté très joie, on va dire. Hein. Ça se passe rarement très bien, en tout cas dans le livre. Mais ça va vraiment, on va rencontrer toutes les difficultés qu'il va traverser. On va sentir ses doutes, ses remises en question, les aberrations du système médical, il va pas comprendre plein de choses. Ça va être très dur pour lui. Les heures et les heures de fou qu'il va faire. Vraiment, voilà. Et on va avoir des histoires, notamment quand on va être dans le service néonatal, qui vont être très éprouvants pour lui, mais aussi pour nous, lecteurs.
Donc, lecteurs, ouais.
Ouais, ouais. Parce que c'est vraiment, voilà, il y a des choses qui prennent au cœur, quoi, aux tripes. C'est très émouvant par moment. On va aussi aller dans un service psychiatrique. Donc là encore différemment, mais là on va avoir vraiment la difficulté de voir les maladies mentales, comment ils essayent de faire. Et puis donc du coup, voilà, il a du mal à gérer tout ça lui, et il va rencontrer bien sûr d'autres médecins qui vont l'aider. Mais voilà, on va avoir cette sensation que finalement le Japon est en effet très prospère et un pays à la pointe de beaucoup de choses, mais qu'ils ont beaucoup de choses à revoir dans leur système médical, quoi.
Comme beaucoup de systèmes médicaux, hein.
Oui,
je peux
comme
pas faire
beaucoup.
De piqûres
maintenant,
françaises.
Maintenant, on en revient à notre époque-là. On peut aussi faire le parallèle avec maintenant chez nous, quoi. Donc, sincèrement, l'auteur, il s'en sort vraiment avec brio parce que on n'est jamais il tombe pas dans la facilité ou les clichés. C'est toujours juste. C'est en plus tenu par un dessin vraiment très réaliste avec des traits qui sont magnifiques. On ressent vraiment toute l'émotion des personnages. Il a une patte qui est super belle. Les visages.
Là, on est sur des traits réalistes. Hein.
Ah ouais, vraiment réaliste. Hein. On est ouais, complètement. Là, on a l'impression de voir du réel, quoi, entre guillemets. Et c'est ce qui retransmet aussi toute cette émotion, en fait, qu'on va vraiment tout partager. Les douleurs des familles, les douleurs des médecins, tout. Et voilà, donc on n'en sort pas indemne de cette lecture-là. Sincèrement, c'est vraiment très prenant. Donc attention, pas dans toutes les mains. C'est-à-dire que les enfants, ça peut être difficile quand même. Il faut quand même, moi je dirais au moins 14-15 ans. Parce que avant ça, c'est trop dur.
Moi je partage ton avis là.
Ouais. Ça serait vraiment trop trop compliqué. Mais sincèrement, pour moi, ça fait partie de mes lectures qui m'ont le plus marqué. J'adore vraiment cette série. C'est vraiment un gros coup de cœur et je conseille de le lire. Et toi, tu l'as lu notamment.
Moi, je l'ai lu et alors j'ai pas tout lu en fait, parce que je me rends compte que j'ai pas dû aller jusqu'au bout par manque de temps probablement. Mais c'est vrai que c'est une série qui m'avait pas mal marqué et j'étais arrivé sur cette série-là parce que je suis un grand fan en fait de Blackjack d'Osamu Tezuka, qui est une série qu'il faut lire, qui est magnifique, qui critique aussi déjà à son époque le milieu médical avec des petites doses de fantastique parce que voilà Tezuka. Mais pour vous donner un peu de standard, Blackjack c'est un médecin gris, c'est un médecin qui a été radié de l'ordre des médecins parce qu'il pratiquait des opérations qui étaient jugées comme inutiles et qui va aller accompagner les gens et sauver des gens qui sont à des moments un peu compliqués. Enfin, il y a ce côté un peu fantastique puisqu'il sauve une petite tumeur qui devient une petite fille qui devient sa compagne
oui,
d'aventure. Donc il y a plein de trucs un peu bizarres. Et avec juste cette histoire d'origine. Donc Tezuka a impacté énormément de gens en termes de manga. On a eu deux séries qui en ont découlé. On a eu Say Hello to Blackjack, dont on vient de parler, et on avait eu aussi Ray. Je sais pas si ça te parle.
Ah non, je connais pas celle-ci.
Qui est un peu plus action aventure avec un trait beaucoup moins réaliste que Say Hello to Blackjack, où on suit une jeune femme qui a été opérée par le Blackjack de Tezuka des yeux et qui a une sorte de rayon X à la place des yeux, et elle va vouer sa vie à essayer de sauver des gens, un peu comme son illustre mentor. Et ça marche bien. Alors c'est certainement moins critique, plus action, plus un peu shonen en fait, que Say Hello to Blackjack. Mais ces deux séries qui ont dû sortir, Ray, ça a dû sortir en 2002. Tu as dit que c'était sorti en...
Je te redis ça tout de suite, 2002.
Voilà, donc les deux sorties sont sorties quasiment en même temps, avec deux thématiques très différentes, avec un ayant pour la même origine. Donc j'ai trouvé ça plutôt cool en fait.
Ah ok, ouais, je connaissais pas Ray pour le coup.
Et ben, comme quoi.
Oui, bon, y a plein de choses, il y en a tellement, on peut pas que là... On peut loin d'être de tout connaître.
Hein. Ben, ce sera peut-être l'occasion. Je crois que je les ai à la maison. Il faudra que je fasse un petit rétro découverte, on va dire, sur Ray. Et ben écoutez, moi je ne vous encourage que deux choses. C'est lire Osamu Tezuka, lire C'est l'Auto Blackjack. Alors tout Osamu Tezuka, ça fait quand même beaucoup.
Ça fait beaucoup, mais il y a vraiment des choses à lire. Et attention, contrairement à ce qu'on peut croire des fois, ce n'est pas forcément que pour les enfants. Hein. Loin de là, il y a beaucoup d'œuvres qui sont très très sombres d'Osamu Tezuka, ce qui critique énormément la société et a toujours un regard très acéré sur les choses.
Pour vous donner quelques références, alors c'était pas le but d'enchaîner sur Tezuka, n'hésitez pas à aller prendre les très bons Tezukomi qui sont publiés aux éditions Delcourt Tonkam, qui sont des recueils en fait de plusieurs auteurs qui reprennent à leur sauce des ouvrages, des histoires de Tezuka. Il y a aussi toutes les œuvres de Tezuka et il y a une nouvelle série Astro Boy qui est sortie sur Netflix qui a l'air d'être plutôt bonne.
Oui,
je sais pas ce que ça donne du coup.
Et ben je sais pas non plus moi. Alors moi j'ai vu le film qu'ils avaient sorti
qui commence à avoir quelques années maintenant.
Quelques années maintenant déjà, ouais. C'est ça. Mais la série j'ai pas vu. Et sinon pour parler d'Astro Boy et de Tezuka, sinon il faut lire plutôt Durasawa
qui est aussi en animé.
Qui vient de sortir du coup en animé tout récemment là, et déjà alors je vais bientôt me plonger dessus parce que j'aime énormément cet auteur là et Pluto notamment.
Et ben ce sera l'occasion de faire peut-être un plutôt le manga plutôt la série et puis
ouais carrément ouais, ça pourrait être cool, ouais. Ouais ouais, tout à fait.
Bah allez-y, Tezuka, de toute façon on peut vous dire que du bien, c'est ultra bon et ça a influencé tellement de personnes que
faut pas se rebuter au dessin, ça a vieilli, c'est un style particulier, ouais. Mais il faut aller au-delà. Ça vaut vraiment le coup.
Bon, on va se quitter sur ces paroles. Merci Fabien.
Merci Seb. À la prochaine.
À la prochaine Fabien pour une nouvelle chronique de manga. Tu nous as donc parlé de Say Hello to Blackjack et puis on a dérivé un petit peu sur Osamu Tezuka. Voilà, quand les gens ils nous disent moi le manga j'aime pas trop, bah, lisez Osamu Tezuka et puis vous verrez, on en reparlera. Ça t'a lu du coup Osamu Tezuka quand même?
Non, moi j'ai lu. Alors le problème c'est que je lis très peu de mangas. Mm-hmm. Et comme j'en lis très peu, je mémorise pas ce que j'ai lu. Enfin, je mémorise pas les noms d'auteurs et autres, mais j'en lis très très. En fait, j'en lis très très peu. J'ai une résistance à lire à l'envers.
Ah. C'est... Mais t'as des mangas qui sont aussi en
oui, français. Oui, 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 qui sont normaux, enfin, dans le déroulement. Voilà.
Entre guillemets.
Oui. Ouais. Normaux, entre guillemets. Enfin, pour un, voilà. Donc, mais non, non, en fait, j'ai pas de nom, tu vois, spontanément, comme ça, je pourrais pas dire, des noms de mangas que j'ai lus parce que je m'en rappelle pas, en fait. Voilà.
Bon, bah, c'est pas grave, hein. C'est pas grave. Je t'en conseillerais quelques-uns.
Ouais.
Ce sera peut-être l'occasion de faire un nouveau challenge.
Un de ces quatre. Encore un.
est-ce que tu veux, toi, continuer
Si tu veux, ouais. Ouais, ouais. On peut...
Alors, regarde, j'ai configuré le truc, ce qui ouais. fait que si je fais ça...
Bulle de noir. Quand le polar s'écrit en BD.
Eh ben, puisque c'est mon tour, hein, puisque tu m'as donné l'autorisation de faire cette chronique, est-ce que c'est possible, Seb, et puis voilà, d'imaginer que derrière cette couverture se cache l'un des albums les plus déjantés que j'ai lus ces derniers temps. J'explique aux auditrices et aux auditeurs, la couverture représente des chats assez diaboliques qui marchent sur des pavés vers le lecteur. Un gros titre, le titre « Chat noir, nuit blanche ». En gros, les chats sont noirs, c'est la nuit, et les pavés sont gris-bleu. Mais dès qu'on arrive à la première page, on entre dans un monde terriblement étrange. Alors, bienvenue dans le grand délire de l'espagnol Sebastián Cabo. « Chat noir, nuit blanche », c'est un polar totalement dérangé, du grand guignol macabrement humoristique, sans aucune limite.
Eh ben, ça s'annonce plutôt appétissant ce que tu nous annonces là.
Tu n'imagines pas à quel point, Seb, on est quelque part. Enfin non, on est à Tangentopolis. Des prostituées sont assassinées et impossible de mettre la main sur le criminel. Alors voilà-t-il pas que l'agent Boldoni, simple agent de la circulation, se met en tête de le traquer, ce criminel. Et pour ce faire, qu'est-ce que vous croyez qu'il va faire, l'agent Boldoni? Eh bien, il va prendre les apparences d'une péripatéticienne, l'agent Boldoni. Et il va déambuler la nuit pour attraper le meurtrier, sans prévenir ses collègues ni ses supérieurs. Mais une nuit, une brigade veut l'interpeller, notre Boldoni, parce qu'ils le prennent pour une vraie prostituée. Alors ça fait un grabuge pas possible dans la rue, au point de déranger Marcel Riotor, vieux misanthrope romancier de polar, mais aussi spécialiste en criminologie. Le Marcel Riotor y bondit hors de chez lui, plutôt furax, mais juste vêtu d'un Marcel, d'un slip kangourou et d'une robe de chambre débraillée. Il hurle qu'on l'empêche de travailler, découvre de quoi il retourne et plante là notre Boldoni. Mais notre Marcel Riotor, sorti en pétard de chez lui, il a oublié de prendre ses clés. Et le voilà incapable de rentrer dans sa maison. Et comme rien ne doit aller normalement, son chat, Kafka, s'échappe. Alors, accompagné de Boldoni, toujours fringué en prostituée, ils s'en vont tous deux à sa recherche. Et les voilà partis dans les rues de Tangentopolis, en commençant par le quartier chaud, pour tenter de retrouver et le chat et le tueur de prostituées. Tout va s'enchaîner de catastrophe en catastrophe, d'une vieille sorcière qui nourrit tous les chats du quartier, jusqu'à une furieuse partouze dans laquelle se retrouve le gratin de la ville.
Bah, tu nous avais annoncé que c'était tendance burlesque, ça semble se vérifier, hein?
Bah ouais. Chat noir, nuit blanche, on le lit au rythme effréné de l'enquête des deux personnages, si bien qu'on arrive à la fin des 124 pages essoufflées, sans bien comprendre ce qui nous est arrivé. Parce que cette histoire, elle se déroule en seulement une nuit, mais ce qui arrive à nos deux héros est digne de ce que traverse James Bond en 3 heures de film. En plus de la partouze, ils vont être poursuivis par des gangsters. Ils vont voler un scooter pour s'échapper, mais bien entendu, l'accident est au bout de la route. Accident dont ils réchappent allègrement, Boldoni toujours fringué en prostituée, et Riotor habillé de son Marcel, de son slip kangourou et de sa robe de chambre débraillée. Mais la clé de l'énigme, le tueur de prostituée, là, c'est la surprise du chef.
Ouais. Est-ce que le graphisme est à la hauteur de l'histoire?
Oh que oui, et tu vas le voir, parce que ce roman qui n'est pas sérieux, mais gravement pas sérieux du tout, est plus digne des Pieds nickelés que d'un polar de Thomas Harris, pour
Le silence des agneaux.
Et le graphisme redéploie complètement tout le côté burlesque et grand guignol. C'est un dessin en noir et blanc, un peu approximatif, mais bourré de tellement d'énergie. Les cases éclatent, les pampans, plofs, clonques et autres vrooms éclaboussent les pages. C'est simple. Les seuls mots des pages 90 et 91 sont pampan, arg et fiou. Si nos deux héros semblent bien gentils, voire naïfs, les prostituées, pas sexy du tout, restent aimables et les méchants ont des mines patibulaires qui font vraiment peur. Ils ont un côté malsain, retors et inquiétant. Et c'est là qu'est la magie de Sebastián Cabo. Ce trait si particulier, si fruste, réussit parfaitement à signifier la société en décomposition et toutes ces turpitudes qu'il raconte. L'énergie, il nous la fait vivre à coups de traits signifiant la vitesse, de perspectives tordues pour nous embarquer dans le mouvement sans nous oublier les gros plans percutants. Ah, j'oubliais le cochon, parce qu'il y a aussi un cochon.
le cochon, c'est Sébastien Cabot. Sébastien Cabot?
Non, non, c'est pas Sébastien Cabot. Ça, il faut lire la BD pour savoir de quoi il retourne avec le cochon. Sébastien Cabot, on le connaît peu en France. Il est né en 81 à Majorque et a suivi des études à l'Université des Beaux-Arts de Barcelone. Il a aussi étudié la sculpture, la gravure et les techniques d'impression. Sa première BD a été publiée en 2011. En France, n'ont été publiés que deux albums. Novembre, le premier, celui-ci, Chat Noir, Nuit Blanche. Et ce sont les éditions L'œuf qui ont eu l'excellente idée de traduire ces deux albums. Les éditions L'œuf, c'est une maison rennaise qui se range dans la catégorie alternative. Ils se disent proches des maisons comme les Requins Marteaux, par exemple. Ils sont nés en 97 d'un fanzine étudiant. Chez eux, pas de ligne éditoriale. L'important, c'est l'originalité graphique et la prise de risque. Ils veulent faire tout simplement ce qui ne se fait pas ailleurs. Mais dans l'édition BD Alternative, Seb, ils sont maintenant nombreux à ouvrir des portes et faire souffler un vent frais dans un domaine parfaitement institué et standardisé. Et tout le catalogue des éditions L'œuf est à l'avenant. Ce roman graphique est plus que hautement recommandable pour les passionnés de BD, pour qui la ligne claire n'est pas uniquement l'alpha et l'oméga. Il est recommandé pour tous les fous de polar déjantés. Il est gravement conseillé pour tous les lecteurs qui savent que derrière un livre, y compris un roman graphique, on y lit un état du monde dans sa plus violente expression. Son titre, c'est « Chat noir, nuit blanche », c'est de Sébastien Cabot, ne confondez pas Sébastien, mais Sébastien Cabot, et c'est publié aux éditions L'œuf.
Eh ben, fabuleux tout ça.
Oui, 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 c'est vraiment une BD que moi je trouve enthousiasmante, quoi, vraiment enthousiasmante.
Voilà. Et puis, ce que je disais tout à l'heure, le dessin, il est complètement barré.
Oui, c'est ravagé.
Ouais, c'est ça.
c'est ravagé, mais on peut se dire, mais est-ce que le dessin sous-tend l'action véritablement? Et effectivement, ce dessin ravagé, en fait, il nous prend complètement. Et quand je dis que on lit d'une traite, on lit d'une traite, et quand je dis qu'on est essoufflé à la fin, on est vraiment essoufflé à la fin, parce qu'on se dit mais quand est-ce que ça s'arrête quoi? Enfin,
c'est un marathon.
C'est vraiment totalement. Et c'est vraiment, enfin voilà. Et le livre est vraiment très bien édité, beau papier. Enfin, il y a vraiment, c'est un beau travail d'édition.
Ouais, c'est le livre qu'on a envie de prendre. Ouais.
Voilà.
Eh ben, impeccable. Hein juste un point, il faudra que je pense à te caler plutôt en fin d'émission. Ouais. Juste au passage, il y a mes enfants qui écoutent. Alors du coup, ils partent tous prostituer. Posez des questions à votre maman. on en parlera quand vous serez couché.
Papa vous explique tout ça tout à l'heure.
Oui, c'est ce que c'est que les quartiers chauds, les partouzes. Faudrait que tu expliques ce que c'est qu'une partouze.
Ouais, je ne sais pas. Bisous les enfants. Allez, on se fait une petite pause musicale et puis avec Dead Poets Society et une chanson qui s'appelle I Hope You Hate Me. Rolling.
I'm Diogène. 101.5 FM.
Vous êtes de retour sur le 101.5 de Radio G, c'est toujours la case de Seb. Vous venez d'entendre Dead Poets Society, I Hope You Hate Me. Voilà, une chanson que j'ai bien aimée.
Oui, c'est bien, c'est énervé, ça nettoie les oreilles. Mais effectivement, la question de ce qu'elle espère, cette jeune fille, quand même, on va pas aller jusque-là.
Non, hein, on va pas aller jusque-là. De quoi on parle maintenant? Alors moi je voulais rester un peu dans la thématique. J'aime bien faire des transitions qui sont pas forcément prévues.
Ouais.
Et là je vais vous parler du chat des neiges.
Oh, bah,
un truc pour enfants du coup.
Bah, on est dans la thématique. Il y a toujours des chats. Est-ce qu'il y a des partouzes dans ton chat des neiges?
Arrête. Arrête.
Non.
Tu vas le mettre dans la merde.
Il est déjà. De toute façon il est déjà.
Je suis foutu. De toute façon ma femme va me jeter des cailloux quand je vais rentrer. Pas la tête s'il te plaît. On est en roue libre.
C'est ça. En fait, ton émission de BD est plus problématique maintenant que ton émission de JDR.
Oui, complètement. Mais c'est la vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je dise?
Alors, parle-nous de cet album qui est très...
Il est très joli.
Très enfantin, hein,
ouais.
Très girly, très presque, hein, d'ailleurs. Hein,
il y a un côté, ouais, girly. Et encore, je trouve que c'est pas si marqué que ça.
Non.
C'est un côté très doux.
Ouais.
C'est de Dina Norlund et c'est publié aux éditions Albin Michel. Pour vous donner un ordre d'idée, on a une espèce de chat... ça fait comment on appelle les espèces de une espèce de chat des neiges qui est une espèce de collier façon crinière un petit peu de gros duvet et on a des espèces de renards serpents qui tournent autour avec une jeune fille en haut qui a l'air un petit peu démoniaque.
Oui.
Et
elle a des oreilles pointues.
Ça fait très bouquin de fable magique.
Eh ben il y a un peu de ça, ouais. Ce qu'on nous raconte une histoire, c'est un conte qu'on va nous raconter, celui des chats des neiges qui dirigeaient en fait de manière bénéfique certaines régions et qui un jour ont le grand roi des neiges s'est fait attaquer, on va dire, par les renards et s'est fait voler son pouvoir. Et parce qu'il s'est fait voler son pouvoir, eh bien, on a le froid qui s'est abattu, puisque les chats avaient le pouvoir de réchauffer toute la région. Et on suit une famille de chats des neiges, qui sont une espèce de créature quand même vachement noble, qui envoie de temps en temps en quête de la couronne du roi des neiges, des petits chats des neiges, et qui ne doivent pas céder à la peur, sinon ils sont marqués sur leur pelage, et s'ils sont marqués, ben ils n'ont pas le droit de revenir. Et un jour, ces chats des neiges vont envoyer l'un de leurs petits frères dans cette quête-là, en se moquant de lui, parce qu'il y aurait une carte légendaire qui dirait où se cache cette couronne, et lui va y aller. Et peut-être que c'est une prophétie qui va se réaliser, mais ça je vais pas vous raconter la fin, parce que ce serait quand même ballot. Moi j'ai trouvé ça très joli, c'est très tendre, très mignon, très rond. C'est effectivement très enfantin, mais il y a un côté un peu dessin animé, un peu c'est pas Disney. J'ai trouvé un côté dessin animé, mais sans arriver à mettre le nom dessus. Et je pense que c'est réalisé en numérique. Je sais pas, il y a de fortes chances.
J'ai l'impression au niveau du graphisme, oui, ça donne l'impression d'être en numérique, ça, ouais.
Il y a beaucoup de couleurs en aplat principalement. Mm-hmm. C'est assez pop, c'est mignon, c'est agréable. C'est une histoire qui, sans vouloir la dévaloriser, n'invente pas l'eau chaude. Mais ça marche bien. On suit ce personnage, on sait à peu près, tout au long de l'histoire, ce qui va lui arriver, parce que ça répond à des codes, mais ça marche bien. C'est efficace, c'est bien construit, les personnages sont mignons, sont agréables, on a envie de s'attacher à eux. Ils ont des interactions qui sont cohérentes, qui sont aussi familières, parce que c'est des interactions qu'on a déjà vues dans d'autres œuvres, et ça marche très bien. Richard qui est en train de parcourir le petit cahier graphique à la fin,
oui,
qui montre aussi la progression de tout ça.
À la fin, il y a les croquis et des explications. Il y a un truc qui me chiffonne. Alors, j'ai vu les premières pages, genre le prologue.
Ouais.
Et je me suis fait la réflexion, en fait, ça commence avec littéralement 10 ans plus tôt par rapport à quoi, enfin pour une première phrase, c'est bizarre, On commence pas par 10 ans plus tôt. Normalement, tu fais le prologue et tu dis juste 10 ans plus tard. C'est bizarre. Je sais pas.
Ouais, je sais, oui.
Ça m'a fait tiquer.
10 ans avant ce qu'on te... Ouais, non, c'est un peu bizarre, mais ça m'a pas choqué. Je me suis laissé porter comme un petit enfant, en fait, à qui on raconte une histoire. On m'a posé le contexte et puis après, c'était fini. J'ai pas cherché plus loin.
Surtout qu'après, au chapitre 1, il y a effectivement 10 ans plus tard.
Oui, il n'y a pas de maintenant, du coup, par contre.
Bah non, c'est ça.
Mais c'est un gros album. Hein. On est plus dans le roman graphique que dans la BD classique. Hein.
Mais du roman graphique pour enfants, parce que
oui, tout à fait, tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que c'est effectivement plus de ce que tu en racontes. Hein, c'est plus un livre de contes. Enfin, c'est un conte qui est raconté avec effectivement une colorimétrie qui est très enfin, qui navigue dans plein de domaines, mais effectivement, on est vraiment dans le. Il me semble, moi, c'est effectivement un travail numérique, quoi. Enfin, c'est un travail numérique. On jongle sur plusieurs formes. Hein. C'est marrant, hein. On a plusieurs formes dans les. Quand on regarde la structure des cases, on est à la fois dans la BD classique, enfin dans l'album classique, et puis après, on va dans des choses qui sont beaucoup plus presque.
Le découpage, ouais, fait penser au manga.
À du manga, ouais, on passe à certains moments du manga. Hein.
Du manga, on a aussi un peu de l'essence du comics sur certains découpages, des splash pages qui peuvent.
Effectivement.
C'est un peu hybride en fait dans sa façon de narrer. Combien de pages? Je ne sais pas, j'ai pas.
Alors attends, moi je suis plein. À la page, il y en a beaucoup. C'est écrit tout petit. C'est écrit tout petit, donc j'ai essayé de voir. Là, il y a
sachant que sur le cahier graphique, on n'a pas les
pages. Après, comme dit Luc, effectivement, ça fait un gros bouquin, mais un gros bouquin style BD pour enfants, et je trouve l'idée cool.
Et c'est assez aéré en plus.
140 pages.
Ça fait quand même, pour un enfant, ça fait quelque chose d'assez consistant.
Ça fait un livre.
Non, c'est un bel objet en plus.
Ils ont mis un espèce de petit liseré doré en plus pour la couve, mais alors. Il y a des bouquins qui m'attirent pas du tout, et là la couve m'a vraiment tapé dans l'œil parce que c'est super joli.
C'est un vrai livre. C'est une couverture rigide avec une vraie brochure. Il y a une vraie brochure, donc c'est vraiment un bel. C'est un vrai livre quoi. C'est pas un sous livre quoi. C'est un vrai livre.
C'est un vrai livre avec une vraie histoire et qui marche bien. Ben, voilà. Je vois pas quoi dire de plus.
Ben on peut dire que c'est publié par les éditions Albin Michel. On peut dire que c'est et comme quoi c'est un vrai livre, c'est quand même un bouquin qui vaut 17,90€, donc c'est
ça va.
Ça va, mais ce que je veux dire, c'est que c'est normal pour un objet de cette nature-là de valoir ce prix-là.
Ouais.
Voilà. On pourrait ça mérite un effort, mais c'est vraiment très très un beau travail des éditions Albin Michel, ouais.
Eh ben top.
Pour les cadeaux de Noël. Voilà.
Voilà. Si vous voulez le mettre sur la liste du Papa Noël, je pense que c'est pas trop tard.
Et ça marche vraiment pour les enfants. C'est pas comme Chat Noir.
Ouais, là, celui-là.
Ça, déconne, Luc. Je sais pas si un jour t'as proposé vraiment un truc pour les enfants. Ça veut dire quoi déjà partout?
Mais c'est fini, oui. Je vais te mettre devant ma femme, toi tu vas faire le moment malin.
Allez, reprends les rênes de l'émission. Voilà.
Allez.
Reine Noël, oui, bah oui.
Voilà, oh oui, je l'avais même pas. Ah, mais vous m'avez tellement perturbé. Un bel ouvrage d'une série, une série d'anthologie. Hein. C'est le tome 3, s'il peut y avoir un numéro de tome dans une série d'anthologie. Il s'agit de Gunmen of the West, une collection qui est dirigée par Tiburce Auger. Alors, si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller voir ce qu'a fait ce monsieur, c'est quand même assez dingue. Il s'est pris de passion pour les cow-boys depuis quelques années maintenant, et il publie des grands ouvrages collectifs dans la collection Grand Angle, toujours sur la thématique des cow-boys. Et je trouve ça vachement sympa, parce que on a plein de talents différents, tous aussi bons les uns que les autres. Hein. Après, il y a des styles graphiques que vous allez aimer et d'autres que vous allez pas aimer. Mais on nous parle de plein de choses. On nous parle de ces légendes de l'Ouest qui ont eu des histoires bonnes, mauvaises, qui s'en sont sorties ou pas. Mais on nous raconte ces histoires. Et on a structuré ce récit de manière à ce que ce soit comme les films d'anthologie où on pouvait avoir, je repense à Creepshow où on avait le narrateur qui nous parle entre chaque sketch, c'est dur à dire ça. Et là, on a aussi une petite narration. On suit un jeune homme qui décide de braquer une armurerie en plein Far West et qui, avec l'armurier et un autre des clients, va se voir raconter les histoires de ces légendes de l'Ouest. Alors, dedans, on a tout ce qui fait que l'Ouest est devenu quelque chose de mythique, que les cow-boys sont devenus des personnages aussi emblématiques, avec leurs santiags, leurs éperons, leurs chapeaux avec des trous, leur trogne que Sergio Leone a si bien mis en valeur. J'ai envie de mettre du Ennio Morricone maintenant, ça commence à faire. Et on a tout un tas de petites histoires courtes qui vont nous raconter des choses sur l'Ouest et sur ces personnalités qui ont habité l'Ouest. En le lisant, je me suis dit, ouais, c'est bon, on nous présente des personnages historiques, je vais même pas vérifier parce que je vais pas avoir le temps. Bon, j'ai pas eu besoin parce qu'on a un petit cahier à la fin qui nous dit que toutes les personnes dont on nous parle, ce sont des personnes qui ont existé. Donc, c'est de l'histoire qu'on lit, c'est une histoire d'histoire avec de l'histoire. Ça fait beaucoup d'histoire, je pense, mais c'est vraiment quelque chose de passionnant. Graphiquement, on a des grands noms, on a Christian Rossi, on a Ronan Toulotte, on a tous ceux qui sont sur la couverture que je ne peux plus lire parce que Richard est en train de le lire, mais sinon tout va bien. On a Eric Haringel, on a Stefano Carloni, on a Jeff, on a Ménet, Vatine, enfin voilà, que des gros noms pour tous ceux qui aiment la bande dessinée. Et on sent qu'ils ont pris beaucoup de plaisir à écrire ces histoires, à les séquencer et à nous frustrer. Pourquoi nous frustrer? Parce que c'est des petits épisodes qui sont courts et des fois on se dit mais ces personnes-là, moi j'aurais voulu une BD entière juste pour ces personnages-là. On parlait de certaines choses tout à l'heure avec Chat Noir et Nuit Blanche. Il y a un moment, un règlement de compte entre tenancières de maisons de passe au Western. Ce qui est juste génial. Et c'est un bouquin, une série d'anthologies. Alors, j'ai pas lu les autres, mais celui-ci, en tout cas, il est ultra bien. Et on passe un excellent moment à aller dans l'Ouest, quoi.
Et à nouveau, c'est Grand Angle qui fait un beau travail. Hein. Ils publient pas beaucoup, mais ils font un beau travail d'édition. Enfin, moi, c'est ce que j'apprécie dans cette maison d'édition, c'est qu'il y a un vrai travail d'édition. C'est soigné, c'est propre. Et là, on est dans les codes du western, quoi. Enfin, c'est vraiment. Moi, j'avais déjà feuilleté quelques albums que j'ai pas lus. J'avais feuilleté des albums et je trouve que c'est génial, quoi. Parce que ça, c'est un volume, mais il y en a toute une série. Hein.
Ouais, il y en a trois déjà de sortie.
Ouais, il y en a d'autres qui sont annoncés. Et le format anthologie marche très bien pour ça. Alors je sais pas comment ont été, on va dire, agencés les autres albums sur cette partie anthologique, mais on se voit bien, tu sais, les mecs qui se retrouvent sous le poncho au coin du feu en train de se faire cuire des haricots dans une casserole et qui se racontent les histoires qu'ils ont entendues, juste après.
Donc, et ce qui est intéressant, c'est que le passage d'un dessinateur à l'autre est pas choquant. Enfin, je veux dire, c'est très cohérent. C'est vraiment très cohérent, quoi. Non, c'est un très bel album, hein, avec une mise en page, enfin des mises en page. Oh là, c'est bien.
Hein. C'est ça passe tout seul, comme tu le dis. Et effectivement, il y a des styles graphiques très différents, mais c'est fluide. C'est très très bien foutu.
Très beau. On est dans la BD classique. Enfin, on est dans...
Ouais, dans là, on est dans une narration classique, avec des gaufriers plutôt... Il n'y a pas d'étonnement sur la narration, mais c'est aussi peut-être la contrainte du sketch, c'est qu'on a moins d'espace pour raconter une histoire, et du coup, il faut être un peu plus concis. Donc là, du coup, on reste peut-être dans des choses de confort. Je redonne les références du coup. Gunmen of the West, publié aux éditions Grand Angle, c'est une collection de Tiburce Auger avec Bertaille, Blasco Martinez, Carloni, Dumonteuil, Gatine, Erengel, Hirn, Labiano, Jeff, Ménère, Rossi, Toulotte, Vatine. Et avec tous ces noms-là, déjà, tu vois, on parlait d'un rapport qualité-prix tout à l'heure. Autant de bons artistes dans un album qui vaut que 19,90, c'est largement rentabilisé.
Tu vas rentrer chez toi, on va te demander, papa, c'est quoi une maison de passe?
Eh ben, attendez que je commence à parler de Jumbo Max.
C'est reparti. On remet une pièce.
Le graphisme de la dernière, quatrième de couverture est cool. Extraordinaire.
Il est trop bien.
Il est extraordinaire.
La boue sur les...
Un homme couché, enfin, c'est extraordinaire. Ouais.
Ah, moi, je trouve ça vraiment très, très bon.
Bel objet.
Bel objet et puis bonne lecture. De ce que j'en sais, en plus, en fonction des librairies, ils ont publié certaines couvertures en édition limitée qui ont été faites par un des auteurs qui sont présents. Et du coup, c'est cool, en fait, parce que c'est-à-dire que pour le même album, on peut en avoir 10 différents. Et là, du coup, on est plus sur le côté à l'américaine avec des side covers.
Ah oui, plus comics, en fait.
Ouais, il y a un côté plus comics. Je vous propose de faire une nouvelle pause musicale, le temps de coucher les enfants avant que je commence à parler du prochain album. Je me suis amusé, je pense que ça sera pas mal. On se retrouve tout de suite après une pause musicale avec Bro, je sais pas comment la prononcer, ou avec les trémas dessus, et la chanson Mauvais Rôle.
Quand y a plus rien, c'est simple de déballer mon sac annulé, les concerts, je décrirai l'arnaque de la planète entière, j'achète les fruits en vrac, je vais skier le cancer, je n'ai aucune attache. Quand y a plus rien, c'est simple, je réponds par des coups, je mange des quantités de produits de la France, je pars pas en vacances, cette année c'était pour nous, j'ai compris maintenant que c'est la fin de tout, alors je vais le faire. Dire que l'homme c'est l'escroquerie vieille de millénaires qui a détrôné l'esprit et le rôle de la chair, je me suis offert une rose parce que personne le faisait, je me suis cassé une côte, j'essayais de me faire plaisir, je suis peut-être info, mais comme tout est pété, pourquoi faire autre chose que de se bouffer les fesses? J'aime que moi je suis un queutard, j'aime que moi je suis un queutard. J'ai le mauvais rôle, écrire tout en gras, que la vie est rose, seulement quand je bois. On me met des sauces, quand je chante pour toi, j'en ai rien à foutre, moi je chante pour toi. Et la vie c'est le temps, et la vie c'est le temps, et je le déteste encore plus que j'aime les enfants. On a mangé la viande du mouton pour l'Aïd, fait des mariages qui durent jusqu'au moment des rites, immoler des voitures et saisir des bastilles, imiter les allures des personnages qui brillent, sacraliser des voiles cousues par l'industrie et sublimer la croûte pour pas goûter la mie. Et je connais la chanson, tu agis comme un garçon, tu abuses de la boisson, t'es la plus mauvaise au fond. Oui mais moi je vous emmerde, j'ai le courage de l'admettre, que je suis la plus mauvaise, que je descends de l'arène. J'ai le mauvais rôle, écrire tout en gras, que la vie est rose, seulement quand je bois. On me met des sauces, quand je chante pour toi, j'en ai rien à foutre, moi je chante pour toi. J'ai dit je vais tout brûler dans chacun de mes titres, je voudrais être aimé, plus jamais être triste, des valises et des sites avec tous les vestiges de Fatma et d'Isis pour décorer mon île que j'achèterai avec tout l'argent d'une SACEM que toujours je critique. Il n'y a rien qu'on enseigne qui soit teinté de neutre, tout est blanc comme la neige, foncé comme un feutre. Alors pourquoi je baisse, alors pourquoi je baisse, pour pas conduire une caisse, pour pas grossir des fesses, pour pas toucher le fond, pour pas sauter du pont, pour pas penser aux autres et défendre des causes. J'ai jamais eu la force, je préfère être morte, alors maintenant je suis morte. Imaginez la scène qui aura de la peine, je sais pas si on m'aime, je sais pas si on m'aime. Je suis la plus mauvaise, je suis la plus mauvaise et je connais la chanson. Tu agis comme un garçon, tu abuses de la boisson, t'es la plus mauvaise au fond. Oui mais moi je vous emmerde, j'ai le courage de l'admettre, que je suis la plus mauvaise, que je descends de la reine. J'ai le mauvais rôle, écrit sous ton bras, que la vie est rose, seulement quand je bois. On me met des sauces, quand je chante pour toi. Écrire tout en gras, que la vie est rose, seulement quand je bois. On me met des sauces, quand je chante pour toi, j'en ai rien à foutre, moi je chante pour toi.
That's all. Ça, c'est une mauvaise manipulation. C'était pas lui que je voulais envoyer.
La nouvelle technologie, c'est ça, ça marche
c'est pas
tout le temps.
Du tout fini.
C'est René, ça, non, René, avait... René. Non, mais ça marche bien normalement. Et les génériques qui sont là, c'est ça que je voulais faire. Ah. Voilà, c'est ça que je voulais faire.
Radio G. www.radio-g.fr.
Ouais, pas convaincu de du jingle enfant quand même.
Ouais, non mais c'est une programmation pas pour enfants ce soir. Je suis désolé. Hein. Bon volant, hein, ça arrive. Et puis c'est pas fini tout de suite parce que du coup je vais vous parler d'un manga qui m'a beaucoup plu. Un manga où justement les enfants allez vous coucher maintenant parce que c'est plus du tout.
Tu vas, votre tu régleras tes problèmes de famille ailleurs. T'as choisi de faire une émission, tu fais une émission.
Et ben, je vais faire l'émission. Je vais vous parler de Jumbo Max. Un manga de Tsutomu, des fois j'ai du mal, il y a trop de voyelles, Tsutomu Takahashi, publié aux éditions Pika. Actuellement, on est sur, ça y est, 9 volumes en VO, et je crois qu'on est sur 6 volumes en français. Actuellement, je revérifie, on n'est qu'à 3 volumes en français actuellement. C'est complètement frais en ce moment. Comment vous parler de Jumbo Max? Jumbo Max, c'est l'histoire d'un pharmacien, jusque-là tout va bien, qui... aussi pour approfondir un peu ses fins de mois, à quelques logements qu'il loue, il gère ça. Ce pharmacien, il est moche, mais vraiment très moche, hein, je ne mens pas, tout le manga est très bien dessiné et plutôt joli, et lui, comme si d'une main divine, le mangaka avait décidé d'incarner la laideur, il l'a complètement... il ressemble à rien.
Fais voir. Oh mon Dieu!
Eh ben, tu vois, je t'ai dit qu'il était pas beau. Et ce monsieur, un jour, va rencontrer une femme qui, elle, est très belle. Attends, je te la montre.
Fais voir.
Oh. Oui, voilà, bon. Je vais y arriver.
Mais elle est sur la couverture, non?
Voilà. Elle est très
non.
Jolie.
Ah oui, d'accord. Ouais.
Il la rencontre. Personne ne sait ce qu'elle lui trouve, parce que lui, il est quand même très très beau. Oh mon Dieu. Voilà. On va faire un running gag. Et bah, très vite, il décide de se marier. Et bah, peu de temps après la nuit de noces, son épouse lui annonce la magnifique chose, c'est qu'elle est enceinte. Mais malheureusement, il y a un petit problème, parce que notre héros...
C'est pas de lui.
Eh ben, on sait pas, justement.
Ah, d'accord.
Mais ce petit monsieur, il a eu un petit souci, c'est qu'il a énormément de mal à mettre le petit soldat au garde à vous,
ah,
à hisser le pavillon,
ah,
à dresser l'aubergine.
Tu vas avoir tellement de lexique à dire à tes enfants ce soir.
Eh ben oui. Eh bien, ce petit monsieur, de sa vie, n'a jamais eu une érection.
Ah.
Et ça lui pose un petit problème que sa femme soit enceinte. Je vous laisse essayer de connecter les trucs qui ont pu se passer dans sa tête.
Non, mais ça, on comprend très rapidement. On arrive à tout joindre, à joindre les deux bouts, d'ailleurs.
Oui, complètement. Et un jour, ce petit monsieur, déjà avec ce petit tracas-là, va aider le papa d'une jeune femme qui habitait dans un de ses logements à débarrasser les affaires de la dite jeune femme qui s'est barrée parce qu'elle ne pouvait plus payer le loyer. Bon, en même temps, elle faisait des films qu'on ne voit que le samedi soir sur Canal+, je suis pas très loin au programme télé. Et du coup, le papa, il dit, écoutez, bah, ça, c'est le truc de ma fille, si vous voulez, vous les gardez, vous en faites que vous voulez. Là, il y a des comprimés, je pense que ça aidait à la verticalité de ses partenaires dans les films. Et là, notre héros, il va, un soir, par dépit, essayer une de ses pilules. Et là, miracle, le sang afflue dans ses organes. Et pour la première fois de sa vie, et Popol dit bonjour à la planète.
La métaphore est brillante.
Ah mais je fais ce que je peux, hein. Et c'est, il trouve ça complètement bizarre.
Le phare s'allume.
Le phare s'allume. On a bref.
Si tu veux, je t'en donne. Il y a pas de souci.
Eh ben non mais. Oh. Et ça lui, il a une révélation. Ces comprimés-là, si lui, qui a déjà essayé beaucoup de choses, ça lui fait de l'effet, il faut que ces comprimés-là, il les refasse et qu'ils permettent à d'autres personnes d'y accéder. Donc du coup, il va retourner essayer de contacter le papa de la fille qui s'est barrée de son logement, vous suivre un peu, mm-hmm. Et il lui dit, bah, moi j'en veux. Mm-hmm. Un premier réflexe du papa en question, c'est de l'arnaquer, de lui filer des pastilles de sucre qui va lui faire payer super cher. Avant que qu'il se rende compte que le mec, en fait, il a juste une volonté altruiste, c'est d'arriver à refaire ses comprimés. Et là, on se rend compte que les 6 comprimés qu'il y avait, c'est les 6 derniers, et qu'on ne sait pas où ils ont été achetés. Mmh. Et qu'est-ce que lui va vouloir faire? Eh ben, il est pharmacien, il va vouloir analyser les composés pour essayer de les reconstituer. Et puis, il va pouvoir les tester sur lui, puisque du coup, il sait que bah, y a rien d'autre qui marche.
Ok.
Eh ben, tel un Heisenberg au rabais, parce que Heisenberg, il a la classe, lui, non. Il va s'acoquiner.
Vitesse Heisenberg, quand même. Mais...
Eh ben, Lui, il est altruiste. Heisenberg, pas trop. Hein. À la base, il voulait sauver sa famille. Bref, lui, il veut juste sauver son petit soldat. Hein. C'est pas pareil. Bref, il va s'acoquiner avec le papa de son ex-locataire.
Quoi
qui va... Oui, sa coquinée, de devenir en magouille.
Ah, d'accord, ok.
Il va faire un business. Wow.
D'accord, oui, business. Oui, oui.
Non.
Non.
Son esprit est parti trop loin.
Ouais.
Ça.
Et ça puis, reste propre.
D'accord.
Et oui, mais ce monsieur-là est pas très borderline, il est pas très légal. Et puis, pour accéder à du matériel d'analyse que lui n'a pas dans sa pharmacie, il va demander à une étudiante d'utiliser du matériel et elle va pour pouvoir utiliser le matériel, faire chanter sexuellement un de ses profs d'université.
Okay.
Donc, imaginez qu'un type qui, sur une envie sympa d'aider le monde, se coquine avec deux personnes qui sont, elles, pas vraiment très fréquentables. On se retrouve avec un personnage très naïf qui n'a qu'une envie, c'est d'arriver à s'en sortir et qui a, mine de rien, mis le doigt dans un engrenage qui va lui broyer le bras d'une force, mais assez monumentale.
Mmh.
On s'est bien marré en le lisant et en parlant là, mais c'est très bien fichu. On a ce personnage, sérieusement, regardez cette tête, on n'a aucune envie de le trouver sympathique, mais on a une empathie pour lui. Et il a tellement de choses qui font que sa vie ne va pas, qu'on n'a qu'une envie, c'est qu'il y arrive. Et à chaque fois qu'il essaie de faire un truc bien, eh ben il se retrouve dans une mouise un petit peu plus profonde. C'est une bonne patte.
Mais il a une tête à avoir des soucis, j'ai l'impression.
Mais regarde. Alors,
c'est dessiné comme si vraiment il y a toute la misère du monde qui va lui tomber dessus.
Mais c'est ça. C'est la main divine qui lui a dit, écoute, tu seras une sous-crotte.
C'est ça.
Et t'auras pas le choix. Mais c'est hyper intéressant. On a des personnages qui sont très rocambolesques. On a des personnages qui sont hauts en couleur. Et les plans qu'ils essaient de mettre en place sur le papier, personne n'y va. Et eux, ils y vont la fleur au fusil en se disant « Ouais, ça passe. »
Ça va passer.
Et c'est vraiment génial. C'est drôle, mais pas drôle dans le sens où on a fait des gags. C'est les situations qui sont drôles. Puis je trouve que le dessin, même s'il manque parfois un petit peu de décor, il est plutôt réussi. On voit bien les personnages. J'ai vraiment été conquis en fait par ça. Et j'ai qu'une envie, moi, c'est qu'il arrive en fait à
fabriquer ses pilules.
Voilà, fabriquer ses pilules. Voilà,
c'est on va et aller disperser dans le monde entier.
Wow. C'est ça.
Ah, c'est ça, ça
oui,
c'est
ce qu'il veut faire, le disperser.
C'est ça, il veut
avec le mouvement en plus, Luc.
Il veut polliniser le monde.
Ah oui.
Hein.
Oh.
Bien.
Voilà. Tout ça. Bon. Moi Jumbo Max, j'ai été conquis dès le premier tome. Là on a 3 tomes actuellement, ce qui est plutôt cool. C'est vrai que derrière la catchphrase c'est aujourd'hui pharmacien, demain baron de la drogue. Il a un peu il y a un peu de marge à faire, mais puis ce qui est génial c'est que quand on a vu Breaking Bad, on peut que comparer
on
se rend compte qu'il y a un parallèle qui ne peut pas se faire parce que justement on en est très très loin. Donc, moi je conseille vraiment Jumbo Max. C'est un pur bon moment. Je sais pas combien il y aura de tomes au total, mais ça reste. Pour l'instant, c'est 9 en VO. Donc,
ouais,
je sais pas si
c'est VO.
Fini. J'avoue, j'ai pas regardé. Mais je vais meubler en attendant. Du coup, Jumbo Max, c'est disponible aux éditions Pika. C'est de Tsutomu Takahashi. C'est toujours en cours. En plus, il n'y a pas le côté. Je sais pas comment dire. L'édition, elle est plutôt sympa parce qu'on a un peu de vernis sélectif juste sur le titre, ouais. Et puis la couverture, elle est pas glacée. Elle a un côté un peu.
C'est un mat.
C'est un mat qui marche bien.
Ouais.
Voilà. Je sais plus s'il y a des petits trucs de cachet. Ouais, les trucs de cachet sous les rabats, mais.
Tu vois que je suis fatigué parce que je l'ai pas fait.
J'attendais mieux de toi.
Bah, je suis désolé, Luc.
Je suis déçu.
J'attendais mieux de toi. Tu es décevant.
Ah.
Tu es décevant.
Non! Maman, arrête!
Allez, la psychanalyse de Seb. ça va être tout pour cette émission.
Sacrée émission, quand même.
Tu avais une annonce à faire aussi, Luc. Mais qu'est-ce qu'on va retrouver chez toi bientôt?
Mais qui on retrouve mercredi à 17h dans l'émission Entre les pages? L'invité, c'est Étienne Davodeau, qui vient dans l'émission, qui vient parler de son dernier album, hein, Loire. Et je suis ravi de l'accueillir. Je suis ravi qu'il ait accepté l'invitation et je suis ravi de l'accueillir.
Il a confirmé qu'il venait.
Oui, oui, il a confirmé qu'il venait. Et on parlera de Loire, mais on parlera certainement de beaucoup plus que Loire. Voilà, donc voilà, tous les gens qui aiment la BD, qui aiment Étienne Davoto, qui aiment la Loire, qui aiment l'Anjou, rendez-vous mercredi à 17h.
L'Anjou, la région ou l'Anjou?
La région.
Ah oui, ok.
Mais l'Anjou rouge aussi. Ça marche aussi.
Oh là là, et on va prendre des vacances, on va pas être là pendant 15 jours. On se retrouvera après les vacances. Et... Ah si.
That's all, folks. On a clairement besoin de vacances.
On
en fait.
A clairement besoin de vacances. Allez, vous venez de l'entendre, c'est Porky qui va signaler la fin de l'émission. On va vous souhaiter de passer de bonnes fêtes de fin d'année. On se retrouve pas dans 15 jours du coup, mais on se retrouvera à partir du 8 janvier pour les Voix du Scénarium et le 15 pour la prochaine caisse de Seb. J'espère que vous êtes sages parce que le Papa Noël, il ne met des cadeaux qu'aux enfants sages et il met des livres aux enfants. Très sage.
Oui.
Et puis en attendant la prochaine émission, vous pourrez retrouver le podcast sur le www.radio-g.fr, onglet La Case de Seb. Et puis on se retrouve le 15 janvier pour
une nouvelle émission.
Pour une nouvelle émission. Non mais j'ai les neurones qui se connectent
aussi. Hein, en fait.
Et pour une nouvelle année. Et puis en attendant, n'oubliez pas de lire. Il paraît que ça rend intelligent.
Ah ben vous avez de la chance parce que moi j'ai appris à lire. Ben je souhaite ça à personne.
Sauvez-vous tous!
Nouvelle urgente. Batman au micro. Avis à tous nos amis. Message extrêmement important.
C'est capital.
C'est palpitant.
Assez de superlatifs, Batman. Et venons-en au fait.
Votre vision et lui fournir tout ce que votre imagination peut concevoir. Nous contrôlerons tout ce que vous allez voir.
T'es toujours là, toi ? Mais c'est fini. Rentre chez toi.